Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
À toutes et à tous, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 20 avril 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Suède, répression des protestataires musulmans au nom de défendre la liberté d'expression. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le ministre iranien des Affaires étrangères appelle les nations musulmanes à aider le peuple palestinien à réaliser ses droits historiques. Le parti arabe quitte la coalition israélienne à cause des tensions autour de la mosquée d'Al-Aqsa. Et puis en France, Macron et Le Pen, deux visions du monde aux antipodes. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle les nations musulmanes à aider le peuple palestinien à réaliser ses droits historiques. Hossein Amir Abdollahian a fait cette remarque lors d'un entretien téléphonique avec son homologue mauritanien nouvellement nommé. Le chef de la diplomatie iranienne a critiqué les récents raids israéliens à cette occasion sur la mosquée d'Al-Aqsa. Il a remercié la Mauritanie pour sa position de soutien envers le peuple palestinien. Les deux autorités ont également discuté du développement des relations bilatérales. Amir Abdollahian a considéré le renforcement des relations bilatérales et de la coopération avec l'Afrique comme l'une des principales questions à l'ordre du jour de la politique étrangère de l'Iran. L'expulsion des réfugiés par le Royaume-Uni est une violation des responsabilités internationales. En réponse au plan britannique controversé d'expulsion des demandeurs d'asile, le secrétaire du Haut Conseil iranien pour les droits de l'homme a déclaré « Le plan du gouvernement britannique est une violation de ses obligations et responsabilités internationales ». Le chef adjoint aux affaires internationales de la magistrature de la République islamique d'Iran, Kazem Gharibabadi, a écrit sur sa page Twitter, suite à la signature du plan du transfert forcé de réfugiés par le Premier ministre britannique, « Le plan du gouvernement britannique pour le transfert forcé de réfugiés est une violation de ses obligations et responsabilités internationales ». Les tensions restent vives en Cisjordanie occupée où les forces israéliennes ont de nouveau attaqué des manifestants palestiniens avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Le Croissant Rouge palestinien affirme qu'au moins 72 personnes ont été blessées près du village de Burqa à l'ouest de Naplouse. Les Palestiniens protestaient contre une marche des colons israéliens réclamant le rétablissement d'une colonie voisine évacuée en 2005. La situation a récemment été tendue en Cisjordanie occupée et à Al-Quds, les forces israéliennes et les colons prenant d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa. Au moins 170 Palestiniens ont été blessés dans les attaques de vendredi. L'agression israélienne a été largement condamnée. Mardi, les Émirats arabes unis ont convoqué l'ambassadeur d'Israël pour protester contre les violations du régime. 56e jour de la guerre en Ukraine, les combats se poursuivent pour le contrôle de Mariupol. Les forces russes étant désormais sur le point de prendre entièrement la ville portuaire stratégique. L'Ukraine vient d'annoncer qu'elle avait conclu un accord préliminaire avec la Russie pour ouvrir un corridor humanitaire pour les femmes, les enfants et les personnes âgées hors de la ville assiégée. Mais des milliers de soldats et de civils ukrainiens restent réfugiés dans une aciérie à Mariupol. Un commandant a demandé de l'aide depuis l'intérieur de l'usine, affirmant que ses forces sont confrontées à leurs derniers jours, voire leurs dernières heures. Il a déclaré dans un message sur Facebook que ses troupes étaient largement en infériorité en nombre, disant que l'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Il y a quelques jours, la Russie a donné un délai aux troupes étrangères et ukrainiennes qui combattent encore à Mariupol pour qu'elles déposent les armes en échange de garanties de sécurité. Sachez également que la Russie annonce sa décision d'expulser 31 diplomates européens dans un geste de représailles. Le ministère russe des Affaires étrangères annonce avoir expulsé mardi 15 diplomates néerlandais et un nombre indéterminé de diplomates belges considérés comme persona non grata. Le ministère russe leur a donné 2 semaines pour partir. Moscou n'a pas encore répondu aux mesures prises par l'Allemagne et la France pour retirer 40 de leurs envoyés en Russie, ce qui signifie que davantage de diplomates européens devraient bientôt être envoyés chez eux, ceci au milieu d'une guerre des mots entre Moscou et l'Occident. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé un cessez-le-feu de 4 jours pour marquer la semaine sainte orthodoxe. Toujours dans l'actualité ukrainienne, le Parlement finlandais a commencé mercredi à débattre d'une adhésion à l'OTAN avec une candidature désormais très probable. La question a déjà gagné un plus grand soutien politique et public. Le gouvernement espère parvenir à un consensus parlementaire d'ici quelques semaines. Au moins la moitié de 200 législateurs finlandais soutiennent désormais une adhésion à l'OTAN. En outre, les sondages d'opinion indiquent que plus de 60% du public sont favorables à cette décision. La Suède voisine discute également d'une candidature à l'adhésion. Un récent sondage montre que 57% des Suédois approuvent l'adhésion à l'Alliance. Mais la Russie est fermement opposée à l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Moscou a précédemment mis en garde la Finlande et la Suède contre l'adhésion à l'Alliance, affirmant que cela pourrait entraîner une accumulation nucléaire dans la Baltique. Enfin, 5 ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent mercredi sur un plateau télévisé pour un débat d'entre deux tours, rendez-vous incontournable des présidentielles françaises. En 2017, la candidature d'extrême droite avait sombré. Cette fois, elle s'est préparée face au président sortant qui lui devra défendre son bilan. Les deux adversaires ne prennent pas ce rendez-vous à la légère et s'y sont préparés jusqu'au dernier moment, à 4 jours d'un deuxième tour beaucoup plus serré qu'en 2017, même si les sondages donnent régulièrement Emmanuel Macron vainqueur entre 53 et 56%, le débat peut avoir des conséquences importantes. Deux visions du monde s'affrontent entre le pro-européen Emmanuel Macron et sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen, qui promet de réduire les pouvoirs de l'Union européenne au profit des nations, mais doit aussi répondre de sa proximité passée avec la Russie de Vladimir Poutine. La relation privilégiée de la candidate à la présidentielle française avec le maître du Kremlin, qu'il avait reçu en grande pompe lors de la présidentielle de 2017, risque fort de s'inviter au débat télévisé de l'entre-deux-tours mercredi, même si Marine Le Pen en minimise la portée depuis le début de l'intervention russe en Ukraine le 24 février. Pendant la campagne, les deux adversaires se sont jusque-là affrontés à distance, se rendant coup pour coup. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Suède, répression des protestataires musulmans au nom de défendre la liberté d'expression. L'autorisation complice suédoise donnée à des partisans d'extrême droite pour brûler des exemplaires du noble Coran, le livre sacré des musulmans en public, qui a fait éclater des contre-manifestations dégénérées en violence, montre que Stockholm n'a pas appris du passé et a une fois de plus cultivé le chaos et l'insécurité sous prétexte de protéger la soi-disant liberté d'expression, mettant ainsi en péril la sécurité et le calme des millions de personnes dans ces pays. Le récit commence jeudi 14 avril avec la confirmation de la venue dans la ville suédoise de Linköping d'un certain Rasmus Paludan, un avocat de formation basé au Danemark qui possède la double nationalité suédo-danoise et qui dirige un parti baptisé Stramkurs, ligne dure en français. Cet homme, qui est le visage danois de l'extrême xénophobie, souhaite se présenter aux législatives en Suède en septembre prochain. Mais sa spécialité est plutôt de brûler des exemplaires du Coran en public et d'inciter à la haine contre les musulmans, généralement dans des quartiers à forte population immigrée. Ces dernières années, il a été à l'origine de multiples incidents dans plusieurs pays européens, y compris en France, où il avait été arrêté et extradé il y a un an et demi. L'aile d'extrême droite danoise, Stramkurs, a tenté de brûler le Coran et d'organiser des manifestations anti-islamiques dans un quartier musulman à 15h30 le samedi dernier. Mais les manifestations musulmanes l'ont empêché d'avoir lieu. Il a fini par le faire avec l'intervention et le soutien complice de la police suédoise et c'est ainsi que cet acte insultant a eu lieu honteusement à 17h en plein mois de Ramadan. Rasmus Paludan, le chef du parti et qui est un membre du Parlement danois, a fondé son groupe controversé Stramkurs en 2017. La lutte contre l'immigration et la propagation de l'islam figure parmi les principaux objectifs de ce parti xénophobe. En 2018, il a qualifié l'islam et les musulmans d'ennemis du monde et a appelé à la éradication des musulmans. Âgé de 38 ans, cet homme s'est fait connaître au Danemark en postant des vidéos sur YouTube. On l'y voit brûler le Coran sous les insultes de jeunes des quartiers danois en se faisant un phénomène d'Internet. Entre 2017 et 2019, ces clips ont été vus plus de 24 millions de fois. Nous le faisons naturellement pour provoquer, pour créer un conflit qui montre à quel point les musulmans sont violents, expliquait-il au journal Extra Bladet. Plusieurs rassemblements d'extrême droite ont eu lieu mi-avril en Suède, dans différentes villes. En réaction, des manifestations de protestation ont été organisées dans des quartiers musulmans. Manière de condamner les offenses répétitives faites aux valeurs sacrées des musulmans, ce qui a déclenché des affrontements et fait des dizaines de blessés. L'intervention de la police pour réprimer les manifestations en colère des musulmans a entraîné des violences et des dommages aux biens publics. Jusqu'à présent, les gouvernements de divers pays islamiques, dont l'Iran, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Pakistan, le Qatar, la Turquie et l'Égypte, ainsi que le mouvement de la résistance libanais Hezbollah, ont condamné l'outrage dans des déclarations séparées. En 2020, la police a empêché l'homme politique danois d'entrer en Suède. En réponse, ses partisans ont provoqué la polémique et brûler la noble Coran en son absence. Cette même année, les protestations musulmanes sont redevenues violentes suite aux provocations continues d'éléments extrémistes. La police suédoise a porté lundi à des dizaines de blessés, dont des policiers, le bilan des graves violences survenues dans plusieurs villes du pays, dans le sillage d'une tournée de ce groupe d'extrême droite islamophobe, voulant brûler le Coran. Pour cette année, la Suède ne s'est pas opposée au déplacement de cet homme et lui a permis de brûler le Coran dans les zones musulmanes, malgré de nombreuses demandes et avertissements de musulmans. Le soutien de la police suédoise à l'autodafé du Saint-Coran donne à réfléchir. Car Paludan avait tenté de brûler le Coran dans d'autres pays européens comme l'Allemagne et la France, mais il avait été dissuadé et repoussé par la police. Dans ces quartiers à forte population musulmane, ce ne sont pas tant les provocations de Rasmus Paludan qui choquent, c'est surtout le fait qu'elles soient autorisées par les pouvoirs publics. C'est ce qui explique l'engrenage. À la suite de ces événements, plusieurs diplomaties, dont iraniennes et irakiennes, ont annoncé dans des communiqués avoir convoqué les chargés d'affaires respectifs suédois. Pour elles, laisser manifester des partisans d'extrême droite souhaitant brûler une copie du Coran est un acte honteux et provocateur qui blesse les sentiments des musulmans et offense pour ce qu'ils ont de sacré. Les affaires étrangères des pays musulmans ont mis en garde contre les graves conséquences de cette affaire sur les relations entre la Suède et les musulmans en général, que ce soit dans les pays musulmans ou arabes ou dans les communautés musulmanes en Europe. Certes, pour les hommes épris de paix et de tolérance de toutes les nations et de toutes les religions, cet acte odieux est inadmissible. Les manifestations protestataires des musulmans étaient pacifiques au début, avant de dégénérer en violence, mais on assiste désormais, et cela sans surprise, à une démocratie sélective à l'occidentale, où les gangs criminels et les émeutiers profitent de la situation pour manifester ouvertement leur radicalisme et offenser près de 2 milliards de musulmans, et que la police l'exploite au nom de la liberté d'expression. Voilà encore l'un de ces projets au ralent belliciste et belliqueux qui ne ferait que fragiliser davantage la paix sociale de par le monde, ainsi que la tolérance religieuse, autant qu'il saperait et réduirait à néant tous les efforts accomplis quotidiennement de par le monde dans le sens du rapprochement de religions et de croyances différentes. Personne ne doit approuver ou justifier un acte d'extrémisme d'où qu'il vienne. Et restons dans cette logique, surtout dans des circonstances pareilles, où la tension monte inexorablement, il faut craindre le pire maintenant et pour toujours.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Les tensions restent vives dans les territoires occupés palestiniens ce vendredi à l'aube. Des militaires israéliens se sont attaqués aux fidèles palestiniens sur l'esplanade des mosquées dans la Noble Route. Près de 200 Palestiniens ont été blessés et des centaines d'autres ont été arrêtés par l'armée d'occupation israélienne. En effet, depuis plusieurs semaines, les Palestiniens continuent de protester et de se soulever en effet contre l'occupation israélienne. Et cela en faisant des opérations contre les sionistes. Dans ce contexte, les différents endroits de la Cisjordanie occupée, en effet, ont été le théâtre de manifestations, de protestations et d'opérations anti-israéliennes. Et Jenin, où l'entité israélienne se voit confrontée à un défi sécuritaire qui lui reste en effet totalement inconnu, a été en quelque sorte le quartier général de ce soulèvement armé contre l'occupation israélienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les tout derniers développements dans les territoires occupés palestiniens. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Peu de commentateurs politiques qui suivent depuis presque 20 jours l'extraordinaire descente aux enfers de l'entité israélienne, dont l'armée de terre, la police, la force de sécurité, ciblée par des attaques éclairs à domicile et parfaitement préméditées, se démène, tant bien et mal, pour éloigner l'épicentre de la guerre des rues de Tel Aviv, de Bir Sheva, de Haïfa ou encore du port gazier, d'Ashkelon, et le replacer à Jenin et à Khan Younes. Entre 10 et 12 avril 2022, presque un an après que les premières salves de roquettes et de missiles Ayash 250 Qassem A-120 se furent abattus contre Ashkelon, sa base militaire Zikim et surtout sa pipeline qui transite le gaz volé palestinien depuis Tamar vers Eilat, en passant par Bir Sheva, ce point ultra chaud par où a commencé le 23 mars la première des opérations commando à l'arme nouvelle anti-Israël. Ce même Ashkelon a été le théâtre de deux événements largement censurés, mais parfaitement symptomatiques de ce que Nasrallah avance. Le 10 avril, la presse sioniste a fait état du meurtre d'un colon, abattu par un officier de la brigade militaire sioniste alors qu'il courait dans sa direction pour lui arracher son M16. Face à une débâcle du renseignement sioniste, incapable de percer autant de mystères qui entourent les énigmatiques attaques commando anti-Israël de ces derniers jours, et à une résistance palestinienne qui s'est entièrement hezbollahisée et dont les actions dépassent le Shin Bet, le Mossad réunit Gantz en appelle aux Américains et aux Golfiens pour qu'ils lui portent secours. Quel constat donc tirer de ces deux incidents produits quasi simultanément à l'issue de 20 jours totalement fous que vit Israël, assaillis d'attaques menées par des armes automatiques de conception israélienne et qui se répandent du nord au sud en passant par le centre Tel Aviv où le commandant Rad a mis au pas en peu en quelques minutes un bataillon de 1000 soldats et forces spéciales israéliens, lequel bataillon a mis 9 heures avant de lui tomber dessus à tout hasard et à quelques 3,5 miles du lieu de l'opération. Le constat plus simple serait que cette guerre hybride, royalement postmoderne que l'armée patriotique de la Palestine a commencée, voici peu et à l'approche du premier anniversaire de l'épée de Rhodes contre Israël, et qui n'implique pour la première fois ni missiles, ni drones, ni métro de gaz, et qui enlève de la sorte toute initiative de riposte à l'adversaire, en est dans sa rapide et terrifiante évolution au stade de dresser les colons contre l'armée sioniste.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur Dortiguier, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Colabandé, bonjour à tous les auditeurs et bien sûr à notre ami Michel.
On s'y attendait peut-être, alors, le point culminant des évolutions de ces dernières semaines. Alors, les violences commises par l'entité d'occupation israélienne ce matin sur l'esplanade des mosquées, monsieur le professeur, où des centaines de Palestiniens ont été blessés, arrêtés. Alors, est-ce que cette répression violente signifie autre chose qu'une fuite en avant de la part de l'entité d'occupation israélienne qui est aujourd'hui plus que jamais dans l'impasse sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la politique intérieure?
Je pense qu'en effet, l'autorité israélienne est passée par ce mouvement de masse qui, comme vous l'avez fait remarquer dans la présentation, n'a rien à voir avec des lancements de missiles ou autres. Non, il s'agit là d'un mouvement populaire organisé surtout unis, j'entends, qui rassemblent toutes les factions politiques. Donc ça, c'est un progrès, disons, irréversible. Les Israéliens ont l'habitude de vivre séparés des Palestiniens en les méprisant, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont au milieu du peuple palestinien. Et ceci, ils ne le comprennent pas depuis 1949, parce qu'ils ont été eux-mêmes illusionnés par leur orgueil, illusionnés aussi par l'aide que leur apportent les sionistes de l'étranger, beaucoup plus important que ceux qui vivent en Israël, mais qui, eux, ne trempent pas leurs pieds, disons, dans le sang des Palestiniens et les font mourir de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de très important. Et là, les sionistes qui sont à l'intérieur d'Israël comprennent bien que leur situation est impossible à tenir dans la mesure où ils ne se livrent pas, disons, à des concessions, au moins d'abord des concessions, et reconnaissent, disons, le caractère impossible d'un État dans l'État. On ne peut pas vivre avec des Palestiniens, contre les Palestiniens, en excluant les Palestiniens. Non, c'est une contradiction qui a déjà été soulignée lors de la naissance de l'entité sioniste en 1949. Aujourd'hui, c'est la réalité qui l'emporte sur les illusions. Et là, je dois dire que nous avons affaire, pour reprendre la métaphore, à un océan, disons, de violence contre les Israéliens. Cet océan est un océan naturel, qui n'est pas du tout le propre de quelques factions. Il s'agit là d'un soulèvement, disons le mot, national et populaire.
Merci infiniment pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, à votre équipe et au professeur Dortiguet. Et bien entendu à vos téléspectateurs.
Merci.
Nous assistons en fait en Palestine à l'échec d'une stratégie qui était celle de la liquidation lente et programmée de la résistance palestinienne. Vous savez que mon engagement pour la Palestine a presque un demi-siècle, je vais fêter mes 50 ans de vie engagée l'année prochaine. J'ai connu l'époque flamboyante de la résistance palestinienne, c'était l'époque du FPLP. On voyait des foules considérables à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Berlin, réunies pour soutenir les Palestiniens. Et on voyait une résistance qui combattait militairement avec l'aide de la Syrie, c'était celle d'Hafez al-Assad à l'époque, le père de Bachar et des Soviétiques. On la voyait combattre. Et puis petit à petit, on a vu le soutien se réduire. Il y a eu cette ignoble assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme qui était une arme psychologique en Occident. Et il y a eu la division de la résistance. Mais depuis 2 ans, on assiste de nouveau à l'émergence. Il y a des foules considérables en Occident qui se sont manifestées à l'occasion de la dernière guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Il y a surtout la résistance palestinienne qui est renée en Cisjordanie même, où on pensait l'étouffer, la grignoter à coups de colonies fantoches, etc. Le grand plan des sionistes, n'oublions pas que ce sont les sionistes les plus radicaux qui sont au pouvoir en Israël, c'est-à-dire les héritiers du fascisme sioniste de Jabotinsky, les partisans des murailles d'acier d'Israël et du Grand Israël, du Nil à l'Euphrate. Ces gens-là, soutenus par leurs complices américains, les républicains à la Donald Trump et les gens de l'AIPAC, ces gens, leur mauvais coup, leur lent étouffant de la résistance palestinienne a trouvé son échec. C'est ce qui se passe maintenant. On n'est plus seulement dans une révolution des pieds, on est une révolution qui est capable de s'opposer militairement. Et je soulignerai le rôle, pour conclure, de l'Iran. C'est l'inclusion de la résistance palestinienne dans l'axe de la résistance, dont l'Iran est le cœur et l'âme, qui a permis cela, cette renaissance de la Palestine.
Merci pour ces précisions, M. Michel. Restez avec nous. Monsieur Dortiguet, donc avec ce soulèvement généralisé du peuple palestinien, avec cet échec, comme disait M. Michel, de stratégie de liquidation de la résistance, avec ces opérations, cette guerre hybride, en effet, des différentes factions de la résistance contre l'occupation. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à une confrontation d'envergure, une confrontation à grande échelle, avec des conséquences, non seulement sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi sur toute la région?
Je pense aussi que, comme vous, que cette confrontation va s'étendre. Elle n'est pas du tout limitée, elle n'est pas locale. Elle est réellement une réaction d'ensemble de la région. Je crois que tous les pays arabes jusqu'à présent tous les pays chrétiens et musulmans ont manifesté leur sympathie envers le peuple palestinien, leur aide là, il s'agit non pas de, d'une aide seulement, il s'agit d'une identification des combats qui durent en Syrie, au Liban, et avec justement le peuple palestinien. Cette osmose, si je puis dire, pour reprendre une image physique, cette identification, voyez-vous, est justement le point nouveau. Elle avait été annoncée par des géographes, parfois par des historiens, des géographes, des gens qui sont, disons, des ethnologues, qui connaissent la région. Mais, disons, le temps semblait, disons, écarter cette perspective. On parlait toujours des différences de régime, des différences entre le Hamas et l'OLP, par exemple. On disait le temps du PLP, quand M. Michel est un temps qui passait, etc. Nous assistons à des, bien sûr, à des luttes, mais en même temps à des trafics d'influence, tout ça. Or, ceci est faux. C'est le peuple lui-même, comme force, disons, qui intervient aujourd'hui. Et cette volonté populaire, elle est évidemment est un défi à la mort. Et ceci fait très peur aux Palestiniens, aux Israéliens, qui ne sont pas habitués à cela. Ils sont habitués à être soutenus, ils sont habitués, disons, à des combats particuliers, voyez-vous. Ils sont habitués à des opérations de destruction, mais pas du tout à affronter l'ensemble d'un peuple. Ceci a été annoncé pourtant dès 1949, et qui est d'ailleurs présent dès avant la guerre de 40, voyez-vous, la dernière guerre mondiale. Il y avait des insurrections en Palestine, il y avait des meurtres en Palestine commis par les islamistes et les habitants britanniques, par exemple. Or, ceci relève de la même essence, de la même nature. C'est un combat très ancien, il ne faut jamais l'oublier, surtout nos jeunes auditeurs. Ils doivent savoir que ces combats ont commencé dans les années 1920, voyez-vous. Et sont continus. C'est-à-dire, j'imagine qu'il s'agit d'un combat fait par mon grand-père, arrière-grand-père, etc. Voyez-vous, tout ceci est une continuité dans le temps. Et aujourd'hui, cette continuité dans le temps, elle se manifeste par une solidarité dans l'espace.
Merci encore, monsieur le professeur. Monsieur Michel, pour de nombreux observateurs et analystes, alors, ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Cisjordanie occupée, c'est-à-dire la recrudescence des opérations anti-israéliennes et la conséquence logique et inévitable, en effet, de la persistance de l'occupation et des violences israéliennes dans cette zone palestinienne. Ceci étant dit, à quel scénario faudrait-il s'attendre? Est-ce que la confrontation va s'étendre? Est-ce qu'il faudrait en effet assister à une concertation, à une coordination de plus en plus étroite entre les différents fronts de la résistance, notamment palestinienne, contre l'occupation israélienne, et une résistance armée à l'instar de ce qui s'est passé l'année dernière avec notamment en effet le tir domicile contre une occupation qui est aujourd'hui arrivée à cette conclusion que justement la résistance palestinienne est bien déterminée, bien capable à riposter aux crimes israéliens.
Écoutez, moi je crois qu'on va vers une...
Allô?
Allô?
Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez?
Dès lors, ce qui s'est passé, la justice fait à un peuple qui n'a jamais été toléré, y compris par les nouvelles générations, va s'étendre. D'autant plus que la stratégie de l'axe de la résistance, elle s'étend sur tout le Proche-Orient.
Merci encore, Monsieur Michel. Monsieur d'Ortiguier, alors, ces évolutions interviennent justement, qui sont d'ailleurs sans précédent depuis le début du mois de Ramadan, donc le dernier vendredi, comme vous le savez, le dernier vendredi du mois de Ramadan, la journée internationale de Quds. Quel sera l'impact de ces évolutions sur la prise de conscience de l'opinion publique internationale à l'égard du peuple palestinien et de l'oppression dont il est victime et qui, malheureusement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, est totalement passé inaperçu et soumise à un blackout total de la part des milieux politiques et médiatiques internationaux?
Il ne s'agit pas de répercuter par des manifestations, des déclarations, ce qui se passe en Orient. Mais je crois que les États, c'est très important, en Europe, tout au moins en particulier l'Allemagne aujourd'hui, qui a qui reprend une certaine indépendance sur le plan politique, tireront des conséquences de cette insurrection continue. Vous savez, ce qui se passe en Palestine n'est pas ignoré en Europe, ni par l'opinion, ni par les gouvernements. Mais nous avons, disons, des groupes de pression qui essaient vraiment de nous séparer ou de neutraliser, disons, l'aide ou la compréhension, disons, que nous pouvons avoir du problème palestinien. Il faut donc, disons, des images, pas des images, des réalités fortes. Ce qui se passe en Ukraine est une, bien sûr une sorte de marche vers un conflit beaucoup plus généralisé, et les gens sont par là même sensibles à ce qui se passe, voyez-vous. Je crois que cette conjonction des deux événements n'est pas du tout exclusive. Je veux dire, cette conjonction ne peut que faire prendre conscience aux gens des liens qu'il y a dans le désordre mondial. L'affaire palestinienne est une affaire d'injustice, voyez-vous. Et donc, les gens comprennent bien que l'opinion publique et les cadres des États, à commencer par les États-Unis aujourd'hui, qui ont abandonné, à mon avis, en grande partie, la politique insensée de M. Trump. Voyez-vous, je crois qu'ils lâcheront, ou disons, s'éloigneront de les appels du sionisme à se maintenir. Je crois même que ceci ira si loin, si je conclurai là-dessus, que de grandes parties de ceux dans le mouvement sioniste international qui se réclament d'Israël lâcheront Israël. Parce que ce qui leur importe à eux, ce sont, comme on dit, les bénéfices, mais non pas les sacrifices.
Merci encore, M. le professeur Dortiguier. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, alors, je vous pose la même question, d'une autre manière peut-être, c'est-à-dire, alors, cette conjonction de l'affaire palestinienne et de la crise ukrainienne, et bien entendu, la révélation au grand jour de l'hypocrisie occidentale, notamment en matière des droits de l'homme. Quel constat tirez-vous justement si vous établissez un parallèle entre ces deux affaires, notamment en matière des droits de l'homme?
Il y a surtout des conséquences géopolitiques au-delà de l'hypocrisie occidentale et des doubles langages. Le but de Vladimir Poutine, ce n'est pas de régler un problème régional avec l'Ukraine. C'est de l'aveu même de tous les analystes occidentaux, c'est de dynamiter le nouvel ordre mondial qui était imposé au monde entier à la fin de l'Union soviétique en 1990. Cette conséquence de cela, ils sont immenses pour le Proche-Orient. Tout d'abord, il y a le fait que les pays qui étaient traditionnellement alliés des États-Unis, les Émiratis, les Qataris et les Saoudiens, ils sont engagés aujourd'hui dans une guerre économique qu'on appelle la guerre du gaz. Et dans cette guerre, ces puissances sont du côté du bloc de l'Est, ils sont du côté de la Russie et de l'Iran et pas du côté des Américains. Ça a des conséquences importantes. Le plan américain de Donald Trump, qui était fait avec l'aile radicale des sionistes, qui était d'associer les pétroles de la Sierra à la liquidation de la résistance palestinienne, évidemment, il est aujourd'hui obsolète. Les monarchies arabes, on l'a vu au sommet de Doha, des États producteurs de gaz, il y a un mois, ils ont refusé de s'engager. Et au contraire, ils ont choisi une neutralité bienveillante vis-à-vis de la Russie, mais aussi de facto de l'Iran. C'est cela qu'il faut constater. Donc les conséquences de la crise ukrainienne vont avoir des conséquences directes sur le Proche-Orient.
Merci encore. Monsieur le professeur Dortiguier, il nous reste 2 minutes justement. Alors, justement, sur les conséquences, les conséquences de la crise ukrainienne sur le Proche-Orient, notamment sur l'affaire palestinienne.
Eh bien, en deux mots, disons, les difficultés que la Russie a rencontrées avec l'Occident et qu'elle a rencontrées, disons, dans son propre sein, dans sa sphère d'influence, brise pour jours, cet accord de 1947, je dis bien de 47, pas de 48, qui a fait que ce fut autrefois la Russie soviétique avec André Gromyko qui a proposé la création de l'entité sioniste. Et alors ceci justement est brisé. Et c'est justement cette brisure qui est une victoire de la justice sur l'idéologie ou les illusions idéologiques. Voyez-vous, ça, cette période 47-48 est définitivement brisée, car elle était fondée sur un faux accord, ou disons, une sorte de coopération entre les deux grandes puissances qui sortaient de la guerre. Cette période d'après-guerre, à notre avis, est terminée aujourd'hui. Voyez-vous, cela se manifestera dans l'évolution de nombreux États. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'instant, à l'intérieur même de l'Europe. Oui, je crois que nous assistons à une nouvelle, pas une nouvelle ère, à la destruction de ce qui a été artificiel, à la destruction d'un mensonge qui a été le mensonge, disons, depuis la fin du traité de Versailles, depuis 1919, bien sûr, de l'époque de l'éclaration de Balfour en 17, bien sûr, ça on le sait, mais surtout de l'après-guerre. Ce crime de l'après-guerre va être effacé par la volonté et aussi l'unité du peuple palestinien et de ceux qui sont autour de lui. Car ce sont des gens qui sont, des peuples qui sont autour de lui en Orient, qui se considèrent justement, qui sont victimes de la même injustice, voyez-vous. Et cela est comme une tempête, voyez-vous, que rien n'arrêtera. Et l'affaire ukrainienne, comme vous l'avez dit, monsieur le Comte, est une affaire qui, précisément, est un craquement de l'ordre mondial, de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Merci.
Et ce craquement, il se manifeste aussi en Orient.
Monsieur le professeur Pierre Dertiguier, philosophe et politologue, Luc Michel, géopoliticien, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
L'annulation des réserves russes va conduire à un nouveau système monétaire international. La réalité est que l'opération militaire actuelle en Ukraine, en temps voulu, sera reléguée un peu plus qu'une note en bas de page dans l'histoire mondiale. Mais la guerre financière totale, qui s'est répercutée sur la Russie, sera essentielle pour définir le nouvel ordre mondial à venir. En fait, nous avons peut-être déjà assisté au moment où l'histoire économique a changé de voie. Le 26 février, l'Occident collectif a saisi toutes les réserves de change de la Banque centrale de Russie qui étaient détenues en Occident. En résumé, l'Occident a décrété que les réserves souveraines russes en euros, en dollars et en bons du trésor américain n'étaient plus de la bonne monnaie. Elles étaient sans valeur en tant qu'argent, pour payer les dettes russes envers les créanciers étrangers. Et en sanctionnant également la banque centrale russe, il est devenu impossible pour ceux qui achètent des biens, de l'énergie ou des matières premières d'effectuer leurs transactions par l'intermédiaire de la banque. Eh bien, faites attention, ce n'est pas tout. Selon la législation proposée par le Sénat américain, les réserves d'or détenues par la banque centrale de Russie seront gelées et saisies. Il y a cependant un gros problème avec cette législation. L'or existe. Il s'agit de lingots d'or physique, environ 2300 tonnes, d'une valeur d'environ 150 milliards de dollars. Mais ils sont stockés en Russie. Ils ne peuvent pas du tout être gelés ou saisis. Alors, de quoi est-il question si l'or ne peut être saisi? Il est question de sanctions secondaires, de boycott à l'encontre de toute partie qui aide la Russie à transporter ou à négocier de l'or. Ainsi, si la Russie importait, par exemple, des puces à semi-conducteurs chinoises et réglait la transaction en or, les États-Unis pourraient théoriquement sanctionner l'entité réceptrice en Chine. Il est vrai que les États-Unis sanctionnent les destinataires de l'or russe, ce qui est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais considérez ceci. Il existe, du moins en théorie, car personne n'en est sûr, 6 000 tonnes d'or étrangers, c'est-à-dire appartenant à des États étrangers, encore détenus par la Réserve fédérale de New York. Aujourd'hui, ces 6 000 tonnes, selon le président de la Russie, peuvent être facilement saisies par les autorités américaines en un tour de main. Pourquoi pas, ils sont à portée de main. Alors, pourquoi les États étrangers voudraient-ils continuer à conserver leur or à New York? Pourquoi ne pas rapatrier l'or tant que c'est possible? Pour commencer, il ne sera pas facile d'arracher cet or à la Fed. Oui, certains pourraient dire que les États-Unis considèrent la Russie comme un mauvais acteur, alors que ce n'est pas notre cas. D'accord, c'est bien pour aujourd'hui, mais la liste des États qui, à un moment ou à un autre, ont été qualifiés de mauvais acteurs est longue. Rappelons que même la France, membre du G7, a été accusée d'être un mauvais acteur pendant la guerre en Irak en 2006. Il est certain que nous sommes sur le point d'assister à un retrait important des réserves hors de la juridiction des États-Unis. La décision de Biden de saisir les actifs de la Banque centrale russe est aussi importante en termes géopolitiques que la fermeture de la fenêtre de l'or des États-Unis par Nixon en 1971. Rappelons qu'à l'origine, la fermeture de cette fenêtre avait été saluée comme une mesure temporaire. La conséquence géopolitique, cependant, a été nucléaire. Le système commercial basé sur le pétrodollar qui en a découlé a permis aux États-Unis d'atomiser le monde par des sanctions et des sanctions secondaires en revendiquant la juridiction sur tous les échanges libellés en dollars ou qui passaient d'une manière ou d'une autre par un processus de compensation en dollars. L'hégémonie des États-Unis sur le soi-disant ordre fondé sur des règles a été financière et pas tellement militaire. C'est-à-dire qu'elle s'est imposée en menaçant tout mécréant d'une sanction bombe à neutrons par le Trésor américain. Et le 26 février, ce système a commencé sa chute lorsque les faucons russophobes de Washington ont stupidement déclenché un conflit avec le seul pays, la Russie, qui possède les produits de base nécessaires pour diriger le monde et pour déclencher le passage à un système monétaire différent ancré dans autre chose que la monnaie fiduciaire. Il est clair que le yuan ou le rouble peuvent refléter la valeur sous-jacente de leurs importantes réserves d'or. Mais aussi, les matières premières sont des garanties, et les garanties sont de l'argent. Et la Russie possède la part du lion des matières premières clés. En bref, le système monétaire occidental basé sur le dollar américain comme monnaie de réserve est sur le point de se terminer dans une supernova inflationniste, car les États-Unis perdent la capacité d'utiliser l'épargne chinoise pour financer leurs déficits budgétaires et commerciaux. Et cela se produit alors que la génération des baby boomers part à la retraite et que leurs droits à l'aide sociale montent en flèche. La défense, les intérêts et les droits non discrétionnaires absorbent déjà 100% des recettes fiscales. Alors maintenant, il n'y a plus le choix. La Fed va imprimer la plupart des énormes dépenses supplémentaires. Zoltan Bozar, l'une des voix les plus respectées de Wall Street, a affirmé que le système monétaire actuel fonctionnait tant que les prix des matières premières oscillaient de manière prévisible dans une fourchette étroite, c'est-à-dire qu'il n'était pas soumis à des tensions extrêmes. Précisément, parce que les matières premières servent de garantie à d'autres instruments de dette. Toutefois, lorsque l'ensemble du complexe des matières premières est soumis à des tensions, comme c'est le cas actuellement, la flambée des prix des matières premières entraîne une vote de défiance plus large à l'égard du système. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Les faucons n'avaient-ils pas prévu ces conséquences inattendues? Y avait-il une grande stratégie derrière la saisie des réserves russes, au-delà de la malveillance viscérale à l'égard de la Russie? Non, il n'y avait qu'une impulsion. Nous le savons parce que la Fed et la BCE ont déclaré qu'elles n'avaient pas été consultées sur la saisie ou l'expulsion de cette banque russe du système de compensation financière SWIFT, ajoutant qu'elles se seraient opposées à ces deux mesures si on leur avait demandé. Et quelle ironie! Dans leur zèle à écraser l'économie russe, les faucons américains ont, par inadvertance, ouvert la voie à la Russie et à la Chine pour commencer à créer un nouveau système monétaire bien éloigné de la sphère du dollar américain.
Thank you.